Seigneur, tu as soufflé sur les pages de notre Bible et les as retournées dans tous les sens pour que des mots anciens puissent reprendre vie et pour que dans notre vie, des pages puissent se tourner. Amen. Nous marchons dans notre existence et nous n'avons pas conscience de notre courte vue. Heureusement que notre imagination est grande pour inventer la possibilité d'un pas supplémentaire qui suivra le pas du moment. Notre imagination est grande. Elle s'élabore comme une certitude stratifiée et hautaine parfois quant à la possibilité du pas suivant, du jour suivant, du battement de cœur suivant, de l'inspiration suivante. Notre puissante imagination, fabriquée avec les moments du passé, nous rassure dans notre marche en avant. Nous n'y voyons rien, et c'est normal, puisque rien n'existe au-delà du pas dont nous nous apprêtons à poser l'empreinte sur le chemin de notre existence. Rien n'existe encore, mais tout est déjà clair, puisqu'imaginé avec les restes d'un passé recomposé. Rien n'existe encore, mais nous sommes là pour transformer ce rien en notre prochain moment de vie. Et c'est comme ça, tous les jours, que Dieu fait pour nous. Nous marchons dans la nuit noire et nous inventons le jour suivant. Mais ce soir, ce n'est pas le cas. Ce soir, nous le savons. Ce soir, le mur qui est habituellement traversé par notre imagination et notre anticipation créatrice, ce mur est devenu noir et il s'élève très haut dans le ciel. Il est impossible de le contourner, impossible d'imaginer le franchir par-dessus ou par-dessous. Ce dernier repas serait non seulement le dernier repas du soir pour Jésus, mais aussi sa dernière Pâque. Et c'est clairement affirmé chez Luc qui dit « Allons nous préparer la Pâque pour que nous la mangions ». Mais ce repas pourrait aussi ne pas être un repas de Pâque, selon l'évangile de Jean, mais de toute façon, il resterait son dernier souper. Pour ce qui nous préoccupe, la question de savoir comment nous arrivons à marcher sans rien savoir du lendemain, sinon au travers de notre imagination probabiliste, pour ce qui nous préoccupe, cela n'a pas d'importance que ce repas, ce dernier repas du soir, ait eu lieu strictement à Pâques ou non. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment arriver à vivre un moment quand nous savons que c'est le dernier. Ici, c'est le dernier moment de la convivialité de Jésus avec ses amis, ses compagnons au sens strict, mais aussi ses élèves. Mais sont-ils encore des élèves? Le disciple n'est-il pas arrivé à ce moment-là au stade de se considérer à la hauteur de son maître? Au point que l'un d'entre eux aurait souhaité appliquer une loi plus importante pour lui que celle que proposait son maître, Judas, et sa passionnelle trahison. Dans un verset qui suit l'évangile qui a été lu, on entend « Pourtant, celui qui me livre est à cette table avec moi. » Judas, envahi par un démon que certains iront qualifier de politique. Judas, néanmoins, un compagnon de celui qui sait que c'est aussi son dernier repas et que dès lors il n'a plus à imaginer un lendemain car il sait comment celui-ci sera fait. Il n'y a plus de probabilité, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus que ce moment qui est le dernier et qui, malgré cette trahison annoncée, est un moment de joie profonde et sans doute festive même si les évangiles ne le décrivent pas comme tel, à cause de la dimension sacrée avec laquelle ce repas a été enveloppé. C'est un moment festif, et cette coupe qui est levée n'est peut-être pas qu'un geste rituel, mais pourquoi pas, puisque cette coupe est mentionnée deux fois dans notre texte, et c'est une spécificité de Luc, ce qui a beaucoup fait réfléchir les exégètes. Mais dans cette méditation libre, je retiens que la coupe a été sans doute levée une nouvelle fois après le souper. Une seconde fois que je verrai, moi, comme une façon de prolonger, tant que c'est encore possible, la joie de ce dernier moment. Beaucoup ont dit et redisent dans des velléités de philosophie basique que nous devrions vivre chaque instant de notre vie comme si c'était le dernier. Mais nous savons que c'est impossible, puisque notre capacité d'anticipation est plus forte que nous. Et que nous, les humains, à l'instar sans doute de tous nos frères terrestres, la seule chose que nous savons faire, c'est nous projeter. Même si cette proposition, elle est stimulante, vivre chaque instant comme s'il était le dernier, elle est impossible à pratiquer, sauf dans des moments fulgurants. En revanche, nous pouvons méditer le dernier repas de Jésus avec ses compagnons, nous pouvons le méditer comme un objet de recherche personnelle et intime, pour savoir ce qu'est intimement un dernier moment dont on est sûr qu'il sera le dernier. Il n'y aura plus de repas peut-être, mais je crois que ce qui est affirmé en filigrane ici, et parce que ça a été écrit, ce qui a été affirmé, c'est qu'il n'y aura plus de dernier repas. Puisque contre toute attente et contre toute probabilité, contre toute trahison, contre toute cette désespérance qui va s'élever avec une croix, et contre toute logique, à l'aube d'un petit matin prochain, il y aura d'autres repas, dont celui-ci ce soir au Foyer de l'âme, à Paris, en 2026. Un repas qui n'est pas le premier, ni le dernier, puisque désormais, ce qui est profondément affirmé ce soir, c'est la persistance de l'amour de Dieu pour les compagnons que nous sommes. Et si pour nous ce repas garde cette dimension du dernier repas, c'est uniquement pour nous faire sentir son importance et l'importance que nous maintenions ce lien entre nous, le seul témoignage pertinent que nous sommes tous capables de faire au-delà de nos systèmes de pensée, au-delà de notre niveau social, de notre confession de foi, ou qu'importe. Ce repas nous révèle paisiblement que nous sommes embarqués avec notre gré dans la convivialité éternelle de Dieu. Et dès lors, nous pouvons élever cette coupe pendant ce souper, mais nous pouvons l'élever une seconde fois après, une seconde fois, puisque cette histoire, bien qu'elle soit déjà accomplie en Christ, n'est pas finie pour nous. Amen.